Eh bien, rebonjour ou bonjour à toutes et à tous. Oui, donc mon objectif là aujourd'hui, c'est de vous proposer d'affronter, si en quelque sorte, ces productions d'élèves, non pas par leur contenu historique, mais plutôt par leur structure. Et la première question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est comment peut-on caractériser ces productions écrites. Voilà. Pour le moment, la catégorie la plus vaste, l'archilexème, je dirais, c'est production écrite. Production écrite qui porte ou qui sont censées porter, du moins, sur des contenus historiques. Quand je dis production écrite, évidemment, le terme est extrêmement flou, mais il est vrai que nous avons dans le corpus aussi une très grande diversité. Il y a, par exemple, des énumérations. Quelques élèves ont répondu Clovis, Charlemagne, Napoléon, Sarkozy, par exemple. Bon. Donc, surtout celles qui ont été faites surtout les questionnaires qui ont été renseignés avant 2012. Bon, donc d'autres sont sous forme iconographique, quasiment exclusivement, ou de bandes dessinées, etc. Bon, donc je vais resserrer un petit peu quand même la focale sur les textes. Qu'on peut appeler texte, et resserrer encore un peu plus la focale sur les récits. Alors, je vais être obligé, évidemment, je vais être amené à définir cela. Pourquoi je resserre la focale sur récits ? À cause de la consigne qui commençait par un mot, un verbe à l'impératif, raconte. Donc, la réponse attendue à l'ordre raconte, c'est bien un récit. Donc, je vais m'intéresser au textes qui répondent à ce critère formel général que je vais essayer de caractériser. Dès lors qu'on aborde ces textes, les textes, quand ils le sont, comme des récits, eh bien, on ne peut pas faire comme si c'était la même chose qu'une description, qu'une réponse à un questionnaire. La forme même récit, naturellement, a un certain nombre de conséquences structurales et aussi de conséquences même sur la visée et la construction du texte. Ignorer cela, ce serait comme si un historien qui travaille sur l'entre-deux-guerres accumulait une page de manuel, une autobiographie, un discours politique, un article syndical et ne procède à aucune discrimination. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas anecdotique ou périphérique, je crois, dans notre travail. Raconte l'histoire du pays ou raconte l'histoire de France suppose bien sûr de mobiliser des savoirs historiques, mais on ne peut pas ignorer que cela suppose aussi de mobiliser des savoirs et des savoir-faire narratifs. Voilà ce sur quoi je voudrais insister un petit peu aujourd'hui. Alors je me suis limité, pour raison de cohérence aussi, à des récits d'élèves de 6e. Voilà, donc il n'y aura pas de discussion entre ce qui ferait mieux plus tard ou bon, c'est uniquement, enfin si on peut poser cette question, mais en tout cas dans la présentation que je fais aujourd'hui, ce sont uniquement des récits d'élèves de 6e. Je ne vais pas vous les montrer, je ne vais pas vous les afficher, je vais vous les lire. Donc je vais solliciter votre mémoire, pas votre mémoire historique, mais votre mémoire immédiate. Ça me paraît important, je le fais évidemment à dessein parce que le récit se déroule de manière linéaire et je veux vous imposer de l'entendre, de le découvrir dans sa progressivité linéaire et de ne pas faire forcément de retour en arrière. J'en ferai moi, mais je convoquerai évidemment des extraits. Alors je suis obligé de commencer par un petit, je vais vraiment être bref et très partiel, un petit cadrage quand même théorique préalable sur, disons, ce qu'on peut entendre par récit ou discours narratif. Globalement, les travaux, disons, les plus récents, enfin des 40 dernières années, Gérard Genette, Ricoeur, Prince, Son et d'autres, ont un petit peu fait déplacer la définition du récit depuis de l'analyse structurale, qui est un peu plus ancienne, vers la perspective d'un discours narratif qui s'inscrit dans une stratégie de communication. En somme, là, si je vais pas vous faire un cours de narratologie, donc je reste sur le corpus, raconte l'histoire du pays, instaure une situation de communication entre un commanditaire et un auteur présumé, enfin qui devient auteur de fait, dès qu'il répond à cette consigne. Donc, l'élève est désigné comme auteur d'une narration. Il n'est pas élève de cours d'histoire. Il est auteur d'une narration. Ce n'est pas la même chose que si on lui avait dit « cite les événements marquants de l'histoire du pays » ou bien si on lui avait demandé « quelles sont les périodes et les faits importants de l'histoire du pays ». J'aurais bien qu'on entre dans la consigne qui a été donnée. Alors, essayer de répondre à deux questions. Premièrement, dans quelle mesure les élèves ont-ils investi cette fonction de narration et deuxièmement, quels peuvent être les signes discursifs par lesquels se voit cette prise de rôle. Donc je vais essayer de mobiliser, d'explorer les outils de la narration, non pas de mobiliser, d'explorer les outils de la narration mobilisés par les élèves. Le récit, dans sa définition la plus simple, c'est un type particulier d'organisation des énoncés. Je ne le prends pas le mot récit au sens d'un genre littéraire, je le prends au sens d'organisation des énoncés d'un texte. Et je vais emprunter à Étienne Souriau un concept qui est pas difficile à comprendre, même si on n'est pas familier de cette littérature-là, c'est la diégèse, c'est-à-dire l'univers diégétique. Il n'y a pas de récit sans univers diégétique. Qu'est-ce que c'est l'univers diégétique ? Eh bien, c'est tout ce qui appartient à l'histoire racontée, au monde supposé et proposé par la fiction du récit. J'insiste, fiction du récit. Donc, l'univers diégétique, c'est donc le monde construit par le récit. Et dès qu'il y a construction, dès qu'il y a récit, il y a univers diégétique. Et dès lors, il y a un certain nombre d'acteurs du récit qui sont modélisés. Le lecteur du récit est modélisé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'auteur du récit se fait une représentation, un modèle, si vous voulez, de ce lecteur, une image de ce lecteur. Et cette image, on va en voir des signes dans le récit. Le récit va faire parfois surgir des éléments de présence de cette figure textuelle qu'est le lecteur modélisé, que Étienne Souriau appelle « narrateur ». Figure textuelle du lecteur. Quant à l'auteur, lui aussi, il délègue son rôle dans le récit à une figure modélisée de l'auteur qui est plus connue, qui est celle du narrateur. Le narrateur est une figure textuelle de l'auteur. Pour ne pas vous abreuver de généralité, je vais vous lire tout de suite un incipit, donc un début de récit d'élèves de sixième. Et on va voir un petit peu comment s'articulent ces différents concepts. Je cite « La France est née à la fin de l'Empire romain vers 476 après Jésus-Christ grâce à Clovis et les Francs. » Point. « À ce moment-là, la capitale était Lyon. » Point. « Un des personnages historiques est Charlemagne. C'était un brigand, mais il a fait de bonnes choses comme rendre l'école obligatoire. Son père était Charles Martel, connu pour avoir repoussé une invasion arabe en 732. Alors, l'ouverture du récit, c'est « La France est née ». Donc, l'ouverture du récit est une personnification. Il s'agit donc de raconter l'histoire de France comme on raconte la vie d'une personne, ce qui permet la qualification ultérieure du bon et du mauvais appliquée aux événements de cette vie. L'univers diégétique ainsi posé, ainsi établi, on va pouvoir repérer l'engagement du narrateur dans son texte. J'en citerai trois. Grâce à Clovis et les Francs, c'est une qualification positive donnée par le narrateur à ces deux catégories d'acteurs. C'était un brigand, c'est une qualification rétrospective, évidemment qui n'est pas particulièrement laudative, mais c'est une présence discursive du narrateur qui qualifie, et évidemment, il a fait de bonnes choses. Donc l'auteur, l'élève, si vous voulez, charge le narrateur d'emprunter hein, au domaine des savoirs historiques, mais quand il le fait explicitement. C'est-à-dire, le narrateur signale au lecteur prescripteur, c'est celui pour lequel qui lui a demandé raconte l'histoire, il signale qu'il quitte le registre du récit personnifié pour emprunter au registre savant. J'en cite deux exemples. Un des personnages historiques est Charlemagne. Historique. Deuxième exemple. Connu pour avoir repoussé une invasion. Connu pour, c'est-à-dire connu du narrateur savant et connu du lecteur modélisé, le narrateur. On note aussi que l'auteur considère les temps actuels comme appartenant au domaine des savoirs partagés entre le narrateur et le narrateur. J'en cite une preuve. À ce moment-là, virgule, la capitale était Lyon. À ce moment-là, sous-entendu, nous savons, vous, lecteur modélisé, et moi, narrateur, nous savons que tel n'est plus le cas. À travers cet exemple, il est clair que l'auteur réel a établi une convention entre le lecteur modélisé et l'auteur raconteur modélisé, qui dérive de la situation particulière induite par deux paramètres, me semble-t-il, d'abord la consigne, raconte l'histoire, deuxièmement l'identité du prescripteur, ou plutôt son absence d'identité précise. C'est-à-dire, on a dit tout à l'heure, Françoise l'expliquait, il ne s'agissait pas d'un contrôle de connaissances donné par le professeur d'histoire ou un professeur de la classe habituelle, ou quand c'était lui, il devait explicitement désigner qu'il n'était pas le destinataire du texte de la production. Il devait dire, c'était dans la notice, si vous voulez, qui était donnée au professeur dans ce cas, que c'était une autre personne qui allait lire ce texte et que ce texte ne ferait pas l'objet d'une évaluation et d'une correction. Donc, ce flou donné de l'identité du prescripteur, lecteur donc, a pu, me semble-t-il, donner le droit aux élèves d'imaginer finalement ce prescripteur tel qu'il le voulait, donc en relation avec l'univers diégétique induit par la consigne. Voyons un petit peu plus en détail, si vous voulez, les fonctions du narrateur, dont le narrateur peut se voir investi, et ensuite j'aborderai quelques indices structurels de l'univers diégétique, mais je vais évidemment être bref. Tout d'abord, quelques éléments macro-structurels de la narration qui sont la focalisation et le point de vue. Je l'explique très rapidement. La diégèse peut être présentée en opérant ou pas une restriction du point de vue. On connaît la focalisation zéro, neutre, dans laquelle le narrateur n'adopte aucun point de vue particulier et donne une information réputée complète à son lecteur. Donc, le narrateur et le lecteur sont dès lors omniscients tous les deux. Ils en savent plus qu'aucun des acteurs de la diégèse. Ça, c'est le premier niveau, donc pas de restriction. Focalisation externe, c'est lorsque les acteurs sont vus de l'extérieur sans aucun accès à leur pensée. C'est comme au théâtre, où le spectateur sait moins de choses que chacun des personnages. Et puis, il y a une troisième focalisation, c'est la focalisation interne, où le narrateur, cette fois, restreint l'information au point de vue d'un acteur de la diégèse, focalisation interne fixe, ou de plusieurs focalisations internes variables. Prenons un exemple tout de suite d'un récit d'élève de trois lignes. La destruction de la Bastille a été un élément qui a révolutionné l'histoire de France. Point. Cette destruction a été une terreur pour le roi, car tous les prisonniers qu'il avait fait enfermer, maltraiter, se sont retournés contre lui. La première phrase est attribuable évidemment à une perspective de narrateur omniscient. Focalisation zéro, la destruction de la Bastille est un élément qui a révolutionné l'histoire de France. La deuxième phrase nous plonge dans la subjectivité du roi, mais elle n'est pas de statut de focalisation interne, dans la mesure où le narrateur où cette focalisation n'engendre pas la restriction de l'omniscience du narrateur. Le narrateur demeure omniscient, mais il pénètre dans les consciences, dans la conscience du roi qui ressent cet événement comme une terreur. Voyons maintenant comment... bon, j'ai beaucoup d'autres exemples, mais je passe. Je vous donne un aperçu de la recherche, évidemment. Je ne vais pas faire... voyons maintenant comment l'univers diégétique se déploie à travers la construction séquentielle du récit. La séquence est un des éléments d'organisation de la textualité, et en particulier de la textualité narrative. Il y a beaucoup de critères. Je vais en sélectionner deux seulement. Premièrement, la visée illocutoire. Je vais expliquer ce que c'est. Et deuxièmement, les repérages énonciatifs. Premièrement, la visée illocutoire ou, d'un mot plus simple, cohérence. Qu'est-ce qui fait qu'un récit est cohérent ? Et quand nous apercevons-nous qu'il l'est ou qu'il ne l'est pas ? Eh bien, justement, c'est essentiel pour comprendre un récit. Dans l'esthétique de la réception, comprendre un récit, c'est saisir l'intention qui s'y exprime. C'est un élément de la macrostructure du récit. Le jugement de cohérence que peut porter le lecteur, il ne peut pas le faire au début du récit, ni même au milieu. C'est un jugement rétrospectif de lecture. C'est un mouvement interprétatif qui permet de déclarer cohérent le texte qu'on vient de lire. Donc la cohérence n'est pas une propriété des énoncés, en tout cas n'est pas une propriété linguistique, mais le produit d'une activité interprétative qui donc met en jeu le narrateur et le narrateur. L'interprétant, celui qui lit le texte, a priori va considérer que les énoncés doivent avoir du sens. Mais il ne formule de jugement de cohérence ou d'incohérence qu'en dernier ressort. Je vais prendre deux exemples. Premier exemple d'un récit d'élève que je vais lire. Je cite. « L'histoire de France, c'est notre histoire. C'est-à-dire que c'est ce qui est arrivé à la France. La France a une grande histoire. Ça a commencé par la préhistoire, puis par l'Antiquité. Après, il y a eu le Moyen-Âge, puis les temps modernes. Après, c'est la première République française. Puis le XXe siècle, sans oublier la Première et Deuxième Guerre mondiale qui ont été terribles. Enfin, c'est le XXIe siècle où nous sommes à présent. Depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, il y a eu beaucoup de changements. Par exemple, il n'y avait pas de route, pas de magasin, pas de maison, ni de lumière. Mais à la place, il y avait des chemins faits avec la nature, des échanges de beaucoup de choses, des grottes et du feu. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de chance. Bon, le récit historique détient sa cohérence de l'appréhension consensuelle du narrateur et du narrateur exprimée par la première personne du pluriel en trois occurrences. Au début, notre histoire. Au milieu, nous sommes à présent. Et à la fin, nous avons beaucoup de chance. La première occurrence et la dernière sont articulées ensemble. Notre histoire est dotée de la qualification euphémique de « grande histoire », de même que la dernière occurrence de la première personne du pluriel est également gratifiée d'une qualification euphémique conclusive qui donne sa cohérence à l'ensemble. Nous avons beaucoup de chance. Deuxième exemple de récit d'élève. Tout commence quand le premier roi des Francs se fait baptiser et proclamer roi. Point. Le temps passe sans que rien ne se passe. Point. Quand Charlemagne est proclamé roi. Point. Il est le plus célèbre des rois carolingiens. Point. Il a conquis un peu plus que l'actuelle France. Mais quand il meurt, ses enfants n'arrivent pas à se départager leur territoire. La guerre éclate. Mais en lançant, une nouvelle dynastie arrive. Je coupe ici. Et je reprends la fin du texte. Mais en 1700, un général français né à Ajaccio, vous avez compris que c'était un Corse qui écrivait ça, fait un coup d'État et se fait proclamer premier consul. En 1702, il se proclame consul à vie. En 1704, il se proclame empereur des Français. Pendant son règne, il a réhabilité le droit au culte Il a inventé les lycées, écrit le code civil et plein d'autres choses. Il a presque conquis toute l'Europe, mais s'est fait arrêter par les Anglais. Ensuite, deux grandes guerres éclatent et les crises économiques dévastent les pays européens pour finalement arriver à aujourd'hui où quasiment tout le monde a pratiquement adopté la démocratie. Point. Alors les séquences. Il y a trois séquences. Évidemment, je vous ai un peu mangé le texte puisque je n'ai pas donné le milieu. Dans ce que je vous ai dit, il y a trois séquences. Il y a une séquence d'ouverture, évidemment, qui commence, on ne peut mieux, tout commence. Mais qu'est-ce qui commence ? Le lecteur ne le sait pas. Le narrateur lui fait savoir qu'il ne se passe rien pendant une longue période jusqu'à Charlemagne. Pourquoi cette qualification du néant ? Le lecteur ne le sait pas à ce moment-là. Donc, jugement de cohérence impossible à rendre à ce stade. Deuxième séquence. Il a conquis un peu plus que l'actuelle France. Donc, la séquence carolingienne est associé à la conquête du territoire d'une France en devenir, qui est comparée à ses dimensions actuelles. Troisième séquence, mai en 1700, un général français, etc. La séquence napoléonienne s'ouvre sous le signe d'un pouvoir autocratique, signifié par une série de qualifications de l'autorité personnelle. Coup d'État, se fait proclamer, se proclame, et encore se proclame. Toutefois, le narrateur sélectionne les éléments de continuité entre ce passé et le présent et même l'avenir. En effet, il présente des choses qui traduisent la pérennité du règne napoléonien jusqu'à aujourd'hui. Droit au culte, lycée, code civil et plein d'autres choses. Et il y a la conquête de presque toute l'Europe, qui situe Napoléon Ier comme deuxième jalon dans la succession du premier Charlemagne du point de vue des délimitations successives des territoires européens et nationaux jusqu'à nos jours. La dernière séquence, qu'on peut appeler contemporaine, s'avère conclusive pour finalement arriver à aujourd'hui et met un signal de fin, comme un générique, un signal de fin, qui répond en miroir à « Tout commence » qui avait ouvert le récit. Le récit prend donc ici une cohérence téléologique, c'est-à-dire que la clôture du récit est ce qui lui donne sens, à savoir l'adoption universelle de la démocratie, qui permet aussi d'expliquer rétrospectivement ce grand néant, rien ne se passe parce qu'il n'y a pas eu de jalon y conduisant. Le « tout commence » et le « rien ne se passe » de l'Incipit peuvent se lire rétrospectivement comme le début d'une succession d'événements qui vont peu à peu constituer la cohésion du territoire d'une France devenue démocratique en Europe. Voyons maintenant, je l'avais annoncé tout à l'heure, les repérages énonciatifs. Définition de l'énonciation. L'énonciation, c'est l'événement constitué par le fait qu'un énoncé a été produit. Il y a des marqueurs de cela. Il y a des marqueurs de l'énonciation qui sont des éléments de la macrostructure du récit qui lui confère son unité. Dans le récit autobiographique, bon, je vous renvoie à Philippe Lejeune qui a montré comment c'est le pacte autobiographique est conclu entre le narrateur et le narrateur. Je reviens à notre corpus. Essayons de repérer les traces linguistiques de l'acte d'énonciation dans deux récits d'élèves. Premier récit. Je suis allé dans plusieurs monuments historiques. Premièrement, la cathédrale de Strasbourg, où on a monté plus de 50 marches. Deuxièmement, le château du Haut-Königsbourg, qui a été construit en haut de la montagne pour que les assaillants soient vite découragés. Troisièmement, à Dunkerque, en Bretagne, ma famille et moi, on est passé devant une église qui a été mitraillée, ensuite reconstruite. Et le lendemain, elle a de nouveau été mitraillée. Alors les habitants ne l'ont plus reconstruite. Quatrièmement, en Alsace, au château de Hollandsburg, il y a un puits de 17 mètres. Cinquièmement, en Vendée, au Puy du Fou, il y a l'histoire de la Vendée. Les Vendéens voulaient que les rois restent au pouvoir. Alors les républicains ont livré bataille et ils ont gagné. La narratrice se nomme à la première personne, dont dès le début, elle se donne un statut particulier dans une narration qui est ici celle du témoin oculaire, c'est-à-dire la caution, elle est la caution de l'authenticité des éléments de la narration. C'est ce que les critiques appellent une énonciation orale, c'est-à-dire référée au temps de la parole. Au récit historique attendu se substitue ici le récit de la découverte des monuments du passé, certes, avec des attestations du narrateur, on, ma famille et moi. Autre exemple des marqueurs de l'énonciation, je cite un autre texte, « La date la plus importante pour moi est le jour de l'abolition de l'esclavage. C'est comme pour le droit de la femme, c'est important que tout le monde soit considéré égaux. » Mais malheureusement, l'esclavage existe encore. Des gens sont exploités, mais aussi les femmes. Il y a des hommes qui ont le même emploi qu'elles et qui gagnent plus. C'est l'inégalité. Ces deux événements sont pour moi les plus importants, même s'ils ne sont pas complètement accomplis. Alors, on relève la présence de marque de la première personne. Pour moi, deux fois, ces mentions relèvent des signes de l'énonciation orale, c'est-à-dire contemporaine de l'énonciation. Il y a aussi l'expression d'un jugement personnel. Ça, c'est la manifestation différée de l'auteur de l'énonciation. C'est important que, mais malheureusement, ces marques donc sont présentes et signalent l'énonciation écrite. Troisièmement, il y a des marques d'énonciation non actuelles. L'esclavage existe encore, mais ne sont pas complètement accomplis. Encore et pas complètement. Ce sont des adverbes qui signalent une appréciation faite en un temps contemporain de l'énonciation. Quatrièmement, une énonciation de caractère proverbial, c'est l'usage du présent de vérité générale, c'est l'inégalité, et une énonciation de discours logique, c'est comme pour le droit de la femme. L'énonciation établit une comparaison qui est un commentaire sur les faits historiques. Voyons maintenant, ce sera mon dernier point. Toi, je vois venir avec ton grand papier. Je vais aller vite. Dernier point avant ma conclusion. C'est l'organisation des séquences de texte. Je peux vraiment aller que très très vite là. Une séquence narrative ne se caractérise pas seulement par une succession. C'est le premier critère, certes, mais c'est pas le seul. Succession, bon, je me réfère à Claude Brémond, logique du récit. Succession d'événements, premier critère. Deuxième critère, unité thématique. Au moins un acteur sujet. Et puis il y en a d'autres, plusieurs. Le sujet peut être animé ou inanimé. L'implication est toujours humaine dans le récit, ou anthropomorphe. Troisième critère, les prédicats transformés. Ce qu'on dit qu'il advient à l'instant T plus N, on le dit du prédicat qui caractérisait le sujet à l'instant T. Donc les prédicats sont transformés. Quatrièmement, un procès. La notion de procès signifie qu'il n'y a pas seulement succession des événements, mais transformation au sein d'une composante temporelle. Cinquièmement, la causalité narrative. On ne peut pas reprocher aux élèves parce que c'est dans le récit. La causalité narrative. Le récit explique et coordonne en même temps qu'il retrace. Il substitue l'ordre causal à l'enchaînement chronologique, c'est pas de moi, c'est Claude Brémond. Sixième critère, une évaluation finale, explicite ou implicite. Je cite un texte, ce sera le dernier. En 1789, la Révolution française renverse Louis XIV, le roi soleil, et le traîne jusqu'à la guillotine. Napoléon conquit l'Italie, la Russie et beaucoup d'autres territoires. Il est né en Corse en 1804. Il se fait nommé empereur et possède presque toute l'Europe, mais la coalition le renverse et on l'exile sur l'île de Sainte-Hélène en 1821. Ensuite viennent les guerres mondiales. La première de 1935 à 1939, la deuxième de 1939 à 1945. C'est Adolf Hitler, un tyran, qui est à l'origine de ces guerres. Il a tué des milliers de juifs dans des camps de concentration. Heureusement, lors du débarquement, les Américains ont mis fin au règne du tyran. C'est un genre de Napoléon, mais en moins terrible. On n'a pas retrouvé son corps, mais on sait qu'il est mort. En 2000, l'euro apparaît en France, mais ce n'est qu'en 2002 qu'il devient la monnaie de toute l'Union européenne, et l'histoire finit par un élève de 6e qui retrace à peu près les moments les plus importants. J'adore l'histoire. Succession d'événements, oui, bon, je vais parler révolution, Napoléon, guerre mondiale, monnaie unique. Unité thématique, il y a 4 acteurs. Louis XIV, Napoléon, Hitler et l'euro, acteurs inanimés pour finir. Les prédicats transformés, oui, au règne des autocrates, Louis XIV, Napoléon, Hitler, succède une apparition, entre guillemets, celle de l'euro. L'apparition de la monnaie européenne marque une double rupture par rapport aux trois séquences précédentes qu'on peut qualifier de l'ère des tyrans. Rupture de la nature de l'acteur historique animé, initialement inanimé ensuite, renversement des rapports entre l'acteur historique et les forces qui lui sont associées, l'autocrate est seul contre une coalition. Coalition, le mot figure, c'est le cas, c'est ce qui renverse Napoléon, c'est ce qui renverse Hitler aussi. Donc, et Louis XIV, il est guillotiné aussi, oui, d'accord. Donc il y a une coalition à chaque fois. Or, la monnaie, elle, au contraire, est portée par un collectif européen. Quatrième critère, un procès, oui, le texte instruit le procès des tyrans, seul contre une collectivité humaine, ils sont qualifiés de plus ou moins terribles, enfin ils sont tous terribles, et se termine par le succès d'une œuvre collective qui n'est pas nationale, qui est supranationale. La causalité narrative, oui, puisqu'il y a des connecteurs logiques, analogiques et adversatifs, mais la coalition, heureusement, met en moins terrible. Il y a une sorte d'intrigue meurtrière qui ne se résout qu'avec la fin des tyrans, auquel se substitue un ordre économique supranational. Une évaluation finale, ben oui, sixième et dernier critère, l'histoire finit par un élève de sixième, etc. Le texte se clôt par un acte d'énonciation orale, un acte d'énonciation orale qui porte un jugement sur l'ensemble de l'histoire. Conclusion. Les récits produits par les élèves en réponse à la consigne « Raconte l'histoire de France » sont redevables, ceux du moins que j'ai considérés comme récits, sont redevables d'une structuration narrative qu'on ne peut pas qu'on peut mettre au crédit de l'école, mais aussi de tous les récits dans lesquels l'enfant est imprégné en dehors de l'école, qu'ils soient écrits visuels ou audiovisuels. Il y a bien une imprégnation dans un environnement narratif, et puis il y a eu des enseignements scolaires aussi, bien sûr, qui ont permis le réinvestissement cognitif important, je le signale, un réinvestissement cognitif important du domaine de la narration. Ce qui m'invite à revenir sur ce que disait Jocelyn Letourneau tout à l'heure, quand il attribuait, je ne sais plus où il est, quand tu disais qu'on devrait travailler le récit en cours d'histoire. Et le récit est un peu malvenu en cours d'histoire, justement, à cause de sa subjectivité, à cause de sa structure. On peut pas reprocher. Et là, on est en train de reprocher aux élèves de construire un univers fictif, mais on leur demande de raconter une histoire. Donc il y a quelque chose à retravailler, à expliciter. Le récit a sa part en histoire, si on le distingue d'autres formes de textes qui traitent d'événements historiques. Évacuer la dimension créatrice de l'écriture, hein, au détriment de ce qu'en fait évidemment l'écrit scolaire, très souvent, c'est-à-dire attestation de savoir mémorisé, ça me paraît quand même regrettable quand on voit la richesse narrative de ces textes. Je dirais qu'il y a aussi, paradoxalement, cette dimension libératrice de l'imagination qui est ouverte par l'impératif « raconte » est peut-être indissociable de la mémorisation. On devrait peut-être y revenir. Il n'y a pas de pensée sans langage. Est-ce qu'il peut y avoir histoire totalement sans récit ? Je ne suis pas sûr qu'il puisse y avoir, en tout cas à l'âge de nos élèves, même peut-être pour nous, une histoire totalement, où serait totalement absente le récit. Je pense qu'il faut considérer que le récit est un outil pour donner du sens à l'histoire. Bien sûr, il faut le soumettre à critique historique, mais il ne faut pas le récuser pour autant. Dans ces productions d'élèves, on voit qu'ils mobilisent des savoirs par le récit, mais aussi, et je voudrais qu'on insiste là-dessus davantage, qu'ils mobilisent des savoirs pour le récit. Je vous remercie.